Chapitre 2. Ce fut avec une véritable anxiété que le lendemain j'attendis le vieux Jean, pendant que, selon sa promesse, il avertissait son maître de ma présence. J'avais peu et mal dormi, ce qui se serait insuffisamment expliqué par mes préoccupations, si j'avais été en proie à des sensations d'un ordre tout particulier. Dans le courant de la nuit, j'avais été pris d'une sorte de suffocation, comme si tout à coup l'air me manquait, ou plutôt changeait de nature, et ne convenait plus au jeu de mes poumons. Il se passait autour de moi quelque chose d'incompréhensible, d'invisible aussi. Oserais-je dire toute ma pensée ? C'était comme une impression d'autre monde, un glissement sur un plan qui n'était plus d'ordre vivant. Je n'avais ni l'énergie, ni même le désir de résister, me complaisant en cet écœurement qui confinait à la syncope, avec une ineffable jouissance d'abandon. Pourtant, le raisonnement t'aidant, je me demandais s'il n'y avait pas dans ma chambre quelques bottelées de fleurs qui m'entêtaient. Je cherchais, ne trouvais rien. Enfin, je tombais dans une prostration qui ne laissa plus subsister en mon cerveau que des cauchemars vagues où des vapeurs diluées à forme nuageuse, ébauchées d'êtres, m'enveloppaient. Par bonheur, le jour avait dissipé ses angoisses. « Victoire !» dit Jean en entrant chez moi. « Oh, la chose a failli mieux marcher que je ne l'espérais. Ah, Monsieur Paul vous attend. » « Oh, c'est au mieux, un seul mot, mon brave. Comment va-t-il ce matin ?»«
Il est, comme toujours, souriant, heureux, si ce n'était cette maudite pâleur. »
On dirait qu'il a plus une seule goutte de sang dans les veines. Nous verrons cela. Confiance, mon bon Jean, conduis-moi. »
Oh, vous n'avez pas loin à aller, car vous occupez la chambre juste au-dessus de son cabinet. Quelques marches à descendre et c'est tout.
Allons. J'eus un dernier embarras, me demandant quelle physionomie je devais prendre, mais je n'avais pas le temps de raisonner. Une porte s'était ouverte et Paul s'avançait vers moi, les mains tendues. Très pâle, en effet, comme exsangue. Cependant, l'apparence générale n'était pas inquiétante. L'homme était vigoureux, je m'en convainquis à la forte étreinte de ses doigts. Je n'avais pas osé prononcer une seule parole, craignant de tomber à faux. Seulement, je le considérais de toute mon attention. « Oui, oui, regarde-moi, ami, me dit-il, regarde bien. Celui qui est devant toi et qui, toi venu, n'a plus rien à désirer. » Oh, l'accueil dépassait toutes mes espérances. J'en fus parfaitement heureux. « Ça, me dit-il, nous allons déjeuner, et le verre en main, nous causerons à cœur ouvert. Es-tu toujours connaisseur en vin ? Oh, j'ai là un certain cru dont tu me diras des nouvelles. Cher bien, cher ami, tu ne saurais croire combien je me sens joyeux, épanoui. C'est si bon d'être hors du monde, hors de tout, avec ceux que l'on aime. » Dirais-je que cette attitude me gênait. Tout en redoutant une crise de douleur, je ne m'étais pas imaginé qu'elle pût être évitée, alors que 6 mois à peine s'étaient écoulés depuis la mort de la pauvre Virginie. J'éprouvais un désappointement et aussi une vague colère contre cette si prompte guérison morale. J'eus un instant l'idée qu'il jouait une comédie pour assurer mon amitié, mais je ne pus m'y arrêter tant ses effusions étaient empreintes de naturel. Il m'avait attiré sur un canapé à côté de lui, et tandis que Jean, impassible en apparence, mais en vérité très intrigué de ce qui se passait, disposait la table auprès de la haute fenêtre à vitraux. Paul m'interrogeait sur ce que j'avais fait depuis notre séparation, s'intéressant à mes travaux et à mes succès. Je répondais de mon mieux, essayant de secouer le souci qui pesait sur moi,
et nuisait à la clarté de mon esprit. « Bah, fit-il, le beau vin te délire à la langue, car en vérité tu ne sembles pas dans ton équilibre ordinaire. T'es pas malade, au moins. » La chose devenait presque comique. C'était lui qui maintenant s'inquiétait de ma santé. Jean, parfois, me questionnait du regard à la dérobée. M'eût-il interrogé tout haut que j'aurais été fort embarrassé de lui répondre, tant je me sentais troublé et hors d'état de formuler une appréciation quelconque. Paul était en parfaite liberté d'esprit, et quand nous nous trouvâmes à table, l'un en face de l'autre, certes, nul ne se fût imaginé qu'il existât entre nous un sujet de chagrin. Il me poussait à parler de moi. Je crus deviner qu'il éloignait sciemment de l'entretien tout ce qui avait trait à lui-même. Il mangeait largement, intelligemment, dois-je ajouter, en homme qui tient à défendre sa santé et à conquérir des forces. Il buvait un vin un peu capiteux, mais générateur d'énergie. Je n'étonnerai personne en disant que je songeais continuellement à la façon d'aborder la seule question qui me brûla les lèvres. Je m'ingéniais à pressentir les motifs d'une insensibilité que je m'obstinais à croire apparente. Mais pourquoi cette dissimulation? Éprouvait-il quelque sotte honte à laisser transparaître ses véritables sentiments devant son serviteur? Jouait-il le stoïcisme pour moi? Quand le café fut servi, il adressa à Jean un signe expressif. Il voulait rester seul avec moi. Jean cligna de l'œil à mon adresse. Comme moi, il estimait que le moment des confidences, des franchises, était arrivé. Paul s'étira sur son fauteuil et dit « Ah, mon cher Paul, qu'il fait bon vivre. Voyons, sincèrement, comment me trouves-tu? En bonne condition, n'est-ce pas? Pour moi, je ne me suis jamais senti plus solide. Regarde-moi et donne-moi nettement ton avis. » J'ai dit qu'à part une pâleur extraordinaire, il présentait tous les caractères de la santé. Je pus donc lui répondre en toute franchise, comme il le désirait. Mais, malgré moi, prenant, comme on le dit, le taureau par les cornes, j'ajoutais « Je suis d'autant plus heureux de te trouver ainsi que je redoutais toute autre chose après l'épouvantable malheur qui t'a frappé. » Prononçant cette phrase qui résumait toutes mes préoccupations, je le regardais bien en face. Il remuait en ce moment son café et de sa main libre saisissait un flacon de liqueur. Il n'eut pas un tressaillement, pas la moindre frisson de nerfs. « Oui, je sais, » dit-il en souriant. « De ton amitié, le contraire m'eût étonné. Mais tu vois que je supporte assez gaillardement la situation. » Mais décidément, il était fou. Ce ton de légèreté, presque d'ironie, était révoltant. « Pauvre petite, se pouvait-il que vous fussiez si promptement, si abominablement oublié ?» Il s'était versé de la chartreuse et la dégustait à petits coups. J'eus un mouvement d'indignation que je ne contins qu'à grand-peine. Je me contais de dire sèchement « Ma foi, bon, c'est affaire à toi. J'avais craint, je l'avoue, que la mort de ta femme t'eût porté un coup terrible, mais je vois que mon amitié n'a pas à se dépenser en consolation. » Le visage épanoui, il répliqua « Non, non, ce serait inutile. » Je faillis bousculer la table en un geste encoléré. « Bon, alors, sois mes excuses. Je constate qu'il s'est produit en toi de grands changements, car il fut un temps où la pauvre Virginie occupait en ton âme une place plus grande. Mais enfin, tu l'adorais. » M'écriai-je, impuissant à jouer plus longtemps le sang-froid. Tu l'adorais comme elle t'adorait elle-même. Et la pauvrette est morte, et après 6 mois, je te trouve la lèvre souriante et l'œil sec. Pardonne-moi quelque surprise. Je ne doute pas que tu aies d'excellentes raisons pour supporter si gaillardement, selon ta propre expression, une douleur dont d'autres, sans doute moins bien doués, seraient morts, mais si tu daignes me les faire connaître, du moins tu me permettras de réserver mon appréciation en toute liberté. Et j'avais débité tout cela d'un trait, impatient de vider mon cœur et risquant nettement une rupture. Lui, très calme, avec son éternel sourire, ne m'avait pas interrompu. Quand je me tus, il haussa légèrement les épaules. « Alors, toi aussi, » fit-il simplement, « tu crois que Virginie est morte ?» Je tressautais sur mon siège, tandis qu'une sueur froide montait à mes tempes. L'évidence s'imposait, la folie. Le malheureux avait perdu la raison. Ainsi tout s'éclairait d'une lueur sinistre. Oh, comme j'avais été injuste! Le coup avait été si violent que, ne pouvant me maîtriser instantanément, je balbutiais. « Mais oui, oui, je croyais, on m'avait dit. »« Oh, mais si ne te fais-je pas un crime de ta sortie un peu vive ?»« Si les gens qui t'ont renseigné avaient dit vrai, je serais un grand coupable et je mériterais les reproches que ton amitié a trop atténués. »« Virginie morte, à cette seule pensée, regarde, mes yeux se remplissent de larmes. » Alors on m'a trompé? Virginie est vivante? Oh, je t'en prie, Paul, ne te joue pas de moi. Je t'aime vraiment, sincèrement. Ta joie ou ta douleur sont miennes. Au fait, la chose est possible. Mais comment expliquer que ces gens m'aient affirmé? Ils disent avoir assisté à la cérémonie funèbre, avoir suivi la pauvre enfant jusqu'au cimetière. Et à moins de supposer qu'ils aient été tous victimes d'une hallucination, je ne pouvais douter. Comme j'élevais la voix, Paul d'un geste me ramena au calme. Ils ne sont pas fous, non plus malveillants. Ils parlent d'après les apparences, leur bonne foi ne fait pas question. Ce qu'ils t'ont dit de l'enterrement du cimetière est parfaitement exact. Je passai mes mains sur mon front. Décidément, je m'égarais en plein cauchemar. J'avais besoin de rentrer dans la réalité, dans la logique. « Veux-tu répondre honnêtement à mes questions ?» lui dis-je. « Volontiers, pose-les. » Dans ces obsèques auxquelles tout le pays a assisté, est-ce que la bière était vide ? Oh non, pas ! Entre les planches de chêne, était-ce oui ou non le corps de Virginie qui dormait son dernier sommeil? C'était son corps. L'inhumation s'était accomplie jusqu'au bout. Jusqu'au bout? Écoute, Paul, je crois comprendre, cependant j'hésite à t'interroger encore. Aurais-tu, avec un effroyable courage, quelques nuits dans la solitude, portait une main sacrilège sur cette tombe à peine fermée, lui aurais-tu arraché son dépôt sacré? Et alors, ainsi que le fait s'est déjà rencontré, aurais-tu trouvé la malheureuse vivante, l'aurais-tu emportée dans tes bras, puis, en je ne sais quelle terreur qu'on te leur a pris, t'aurais-tu caché et séquestré ici? Et je regardais autour de moi, saisi d'une crainte quasi superstitieuse. Il rit. Hé, donc, voilà que tu te perds en plein roman. Mais c'est du feuilleton, cela. Sommes-nous donc des enfants pour nous arrêter à pareille billevesée? Enfin, morte ou vivante, il n'y a pas de milieu. Il redevint très grave, soudainement. « Voilà bien les parleurs, » fit-il à mi-voix, « se grisant de mots, posant des axiomes avec une audace qui n'a d'égal que leur légèreté. » morte ou vivante, cet où est merveilleux. » Il se tut comme craignant d'en trop dire, mais je n'entendais pas qu'il s'arrêtât en si beau chemin. Pour moi, la chose était indubitable. Dans ce cerveau en apparence très sain, il y avait ce que j'appellerais irrévérencieusement une fêlure. Et pourquoi cet « où » te semble-t-il si singulier ? Il me regarda bien en face. « Ben parce qu'il implique antagonisme, » me répliqua-t-il nettement. « Parce qu'il signifie incompatibilité entre les deux états. » Oserais-tu prétendre qu'on peut être à la fois mort et vivant ? Entre sa dernière réplique et la mienne, il s'était passé un fait subi presque inquiétant. La lumière qui éclairait les yeux de Paul s'était tout à coup voilée, quasi éteinte, et les paupières, brusquement alourdies, étaient à demi tombées sur les globes. « Qu'as-tu donc ? » m'écriai-je. « On dirait que tu t'endors. » Il fit évidemment un effort violent pour ouvrir les yeux. « Oui, oui, c'est bien cela, » murmura-t-il. « Je n'y songeais plus. Il faut que je dorme. Je ne puis pas résister. Et le pourrais-je que je n'en ai pas le droit ? Oh oui, ce serait un crime. » Il parlait d'une voix sourde, sans accent, comme dans un rêve. Effrayé, je m'étais levé et approché de lui. « Ne crains rien, » continua-t-il, « et surtout ne me questionne pas. Je ne sais encore si je pourrais tout te dire. Il faut que j'interroge, que je consulte. Tu restes ici, n'est-ce pas ? La maison t'appartient. Je ne me réserve que cet appartement. » « Je vais dormir, dormir, et puis... » Sa tête tombait sur sa poitrine. C'était un affaissement brutal. « Je suis à tes ordres, lui dis-je. Je veillerai auprès de toi. » Il tressaillit. « Non, 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 je ne veux pas. Va-t'en, je te dis. » Il étendit la main et agita violemment la sonnette. Jean accourut. Paul s'était dressé et, s'appuyant au meuble, se dirigeait vers le canapé. Il parla en haletant. « Jean, mon ami est ici, chez lui, qu'on ne cherche pas à me voir. Sous aucun prétexte, jusqu'à demain. Mais allez-vous-en donc, je ne veux pas dormir avant que cette maudite porte soit fermée. » Et de ne pas dormir, cela me tue et la tuerait. » Il eût été incruel et imprudent de lui désobéir. J'assistais à une crise dont l'étude immédiate m'était impossible. Il était tombé sur le canapé et restait les yeux fixes, comme mort, tandis que son bras étendu nous montrait impérieusement la porte. Nous sortîmes, et nous entendîmes derrière nous le bruit des verrous violemment tirés. Je passe rapidement sur la conversation qui s'ensuivit entre Jean et moi. Je n'avais rien à lui apprendre, et lui-même n'apportait pas mes appréciations d'éléments nouveaux. Il y avait chez le brave homme un fond de crédulité paysanne, et si je l'avais poussé, il n'eût pas été loin ni d'attribuer l'état de son maître à quelques maléfices. Je finis par me soustraire à ces bavardages. La maison et le parc étaient à ma complète disposition. Il s'agissait maintenant de passer mon temps de la meilleure façon possible. L'inaction qui m'était imposée pendant 12 ou 15 heures me paraissait lourde, mais je me trouvais en somme plus avancé que je ne l'espérais la veille. C'était un important résultat que d'avoir pu causer avec Paul et d'être certain que cette causerie se renouerait le lendemain. Je n'avais pas à me dissimuler que dans l'entretien de tout à l'heure, je m'étais trouvé dans un état de réelle infériorité. Tout m'était surprise, les mots, les actes, les idées. J'étais pareil au médecin qui voit un malade pour la première fois, ignorant de sa constitution, de ses antécédents, et qui se sent dérouté par des phénomènes morbides d'apparence contradictoire. Il ne me déplaisait pas de prendre le temps de la réflexion. Je m'efforçais donc de débarrasser mon esprit des ombres qui l'enténébraient et de me tracer un plan pour l'entrevue du lendemain. Il me fallait oublier que Paul était mon ami afin de le pouvoir ausculter à loisir et sans que mes nerfs se missent de la partie. Je fis une longue promenade seul dans le parc, m'intéressant à cette flore curieuse, née à force de soins, comme au château de Saint-Tra dans un terrain de roche, et peu à peu je recouvrais dans ces observations le calme de ma raison et de ma conscience. Puis, comme était venue à tomber une fine pluie d'automne, je rentrais dans la maison. Elle comprenait un rez-de-chaussée et deux étages. L'appartement de Paul se trouvait au premier, au second, c'étaient les chambres d'amis dont j'occupais la plus grande. Au rez-de-chaussée, un salon, dont les fenêtres ouvraient sur la campagne, invisible d'ailleurs par ce temps gris, puis un fumoir, une salle de jeu avec billard, toupie hollandaise, tout cela, dois-je rendre justice à Jean, parfaitement entretenu et dans un état d'exquise propreté. Enfin, j'avisais une petite pièce, presque complètement obscure, avec une fenêtre garnie de vitraux. Une bibliothèque avec rayons autour et au milieu une table de chêne. On se sent tout de suite entre amis. À la lueur d'une lampe, je commençais l'examen des planchettes et découvris là, à ma grande satisfaction, les meilleurs et les plus récents travaux de philosophie et de sciences naturelles, mais aussi une série d'ouvrages relatifs aux plus étranges et aux plus embrouillés problèmes de psychologie transcendante, de psychisme, et même, pourquoi reculer devant le mot, de magie, d'ésotérisme oriental et d'occultisme à haute pression. « Ouais, me dis-je, voilà qui me donnera très probablement la clé du mystère. Ces volumes sont couverts de notes, de soulignages, de rappels. Il est évident que Paul les a ressassés. Il faut avoir l'esprit très net et très équilibré pour se pencher sur ces profondeurs sans éprouver la sensation du vide, le vertige. La tête de Paul lui aura tourné trop vite. C'est une affection guérissable, une variété de la névrose dont la suggestion aura rapidement raison. J'étais rasséréné. Connaissant les causes, je redoutais moins les effets. Je n'étais pas dès lors un négateur impénitent des phénomènes mystérieux, dont plusieurs, et non des moins troublants, ont déjà acquis droit de cité dans nos cliniques. Mais j'estime que rien n'est plus dangereux que de poser le pied en touriste fantaisiste sur ces terrains mal connus où la folie vous guette. Paul n'était pas armé pour la lutte, les douleurs éprouvées l'avaient prédisposé à l'ébranlement mental. Il avait trébuché, étourdi, au premier pas. Je lui tendrai la main et le relèverai. C'était mon devoir d'homme sensé, d'ami, et je n'y faillirai pas. Mon souci s'allégeait. Je soupais de bon appétit, coupant court aux dissertations de Jean, qui me fit tout l'effet d'avoir subi la contagion du détraquement ambiant, et je me retirai de bonne heure dans ma chambre, désireux de me reposer pour, le lendemain, être en possession de toute ma lucidité d'esprit. Je me sentais calme et je m'endormis sans fièvre. Mais, après un temps que je ne pus apprécier, je m'éveillai soudain avec un hoquet nerveux. Et, chose curieuse, c'était exactement la même impression que la veille, une angoisse inexplicable, compliquée d'une bizarre difficulté à respirer. Je sautai sur le tapis, réagissant de toute ma force contre cette torpeur. Oui, vous étiez la victime d'une illusion, et en ce cas, la raison se dissiperait, ou alors le phénomène était réel, et j'en découvrirais la cause. Or, je vis que la lampe que j'avais laissée allumée brillait d'un éclat singulier, comme si la flamme eût été excitée par un apport excessif d'oxygène. Aussi, une vive odeur d'éther me saisit aux narines. C'étaient ces effluves qui me montaient au cerveau. L'effet physique était si patent qu'un instant ma vue troublée crut percevoir dans la chambre des formes ondulant et girant. Je m'habillai à la hâte et ouvris ma fenêtre. Oh, l'air me fit du bien. La nuit était noire, on n'entendait pas le moindre bruit. Je me penchai pour mieux aspirer la fraîcheur vivifiante, et dans ce mouvement, je remarquai qu'une fenêtre de l'étage inférieur était éclairée d'une lueur blanchâtre, très douce. On eût dit qu'un nuage d'infinitésimale poussière s'exhalait à l'extérieur. Or, en examinant la maison mieux que je ne l'avais encore fait, je m'aperçus que ma propre fenêtre ouvrait sur un balcon qui contournait une partie de l'étage, et cette pensée me vint que de l'angle le plus éloigné, je pourrais peut-être plonger mes regards dans la pièce si singulièrement éclairée qui, je le constatais maintenant, touchait à la chambre où Paul m'avait reçu le matin. C'était le cabinet toujours clos dont Jean m'avait parlé. Sans discuter un seul instant mon droit à l'indiscrétion, je m'engageai sur le balcon et, prenant soin d'étouffer le bruit de mon pas, je suivis la rampe de fer en pleine ténèbre, certain par conséquent de n'être pas vu, même par le vieux domestique, à supposer qu'à cette heure il ne dormit pas encore. J'arrivai ainsi à l'angle de saillie et me trouvai à quelques mètres de la chambre en question, la voyant de biais très nettement. Des tentures intérieures en masquaient la majeure partie, mais dans leur écartement une lueur apparaissait, pâle ou plutôt bleuâtre, tamisée et comparable, enfin ce fut la pensée qui me vint aussitôt, à celle qui se dégage des lucioles. Je restai accoudé, plus ému que je ne l'aurais voulu, avec le léger battement de cœur que connaissent les enfants en faute. Or, je ne me dissimulais pas que ma curiosité fût un peu coupable. Pendant un assez long temps, je n'observais rien de plus que ce reflet d'un invisible foyer, et je songeais à regagner mon lit quand, tout à coup, je vis la tenture se relever et deux ombres se profilèrent sur les carreaux. Je dis bien deux ombres. Elles étaient penchées l'une vers l'autre, comme enlacées. Et de ces deux silhouettes, je ne pus méconnaître l'une qui était celle de mon ami Paul. Quant à l'autre, impossible de s'y méprendre, c'était une forme de femme, un galbe byzantin, gracile. Cette apparition dura le temps d'un éclair, le rideau retomba. Quelle que fût la résistance de ma raison, toute objection se brisait contre le fait. Il y avait une femme dans l'appartement de Paul, et, le dirais-je, autant que mes souvenirs pouvaient me servir, et j'avais la conviction qu'ils étaient précis, cette silhouette fine au dessin mystérieux, pré-raphaélite, rappelait étonnamment celle de Virginie. En tout cas, Jean ne s'était pas trompé. Pendant ces nuits où l'accès de son cabinet était interdit à tous, Paul n'était pas seul. En même temps s'imposait l'hypothèse que j'avais repoussé naguère. Virginie vivante, une mort simulée, de par on ne sait quel caprice morbide, et enfin l'isolement à deux dans une séquestration sans doute volontaire. Il y avait là quelques drames macabres que la folie de l'un, ou peut-être des deux, aggravait chaque jour en le prolongeant. L'aube venait, j'avais froid, je rentrais dans ma chambre et dormis jusqu'au matin. « Accorde-moi 2 jours, me dit Paul le lendemain, et je te révélerai mon secret. » Je ne lui avais pas avoué ma découverte de la nuit, préférant l'amener à une plus lente confidence. Mais, à ma grande surprise, il venait de lui-même au-devant de mes curiosités. Son attitude devait paraître fort étrange, il en convenait loyalement, mais il se trouvait dans des conditions ordinaires qui autorisaient les suppositions les plus fantastiques. Loin de me les interdire, il déclarait que je resterais quand même au-dessous de la réalité. Le mieux était de ne point perdre en hypothèses inutiles. S'il ne me donnait pas satisfaction immédiate, c'est qu'il n'était pas seul maître de ses décisions. Il avait de grands ménagements à garder. Il a des pudeurs, ajouta-t-il, dont nous autres vivants ne pouvons en concevoir l'idée. Bref, j'étais prêt à lui accorder le délai sollicité. Après 48 heures, il se faisait fort de m'initier au mystère de sa vie. Le pis, c'est que je ne concevais pas la nature de ce mystère. L'examinant attentivement, j'étais frappé de l'altération de sa physionomie. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés de bistre. Sa voix même sonnait d'un timbre étrange, diminué. Du reste, il ne dissimula pas une intense fatigue et me pria d'abréger ma visite. Bien entendu, pendant les 2 jours de répit qu'il m'imposait, je prenais l'engagement de ne pas chercher à le voir. Te parler, t'écouter, t'entendre même, serait pour moi une fatigue que je n'ai pas le droit d'affronter. Je dois concentrer, synthétiser toute mon énergie, sans en dépenser vainement une parcelle. Je consentis à tout, sans même discuter, tant je redoutais en mon ignorance de prononcer un mot qui modifia ses résolutions. Seulement, craignant de ne pas rester maître de mes curiosités encore surexcitées par l'obscurité de ses promesses, je lui déclarai que je m'absenterais pendant ces 2 jours, m'engageant à me trouver prêt à l'heure dite à profiter de son bon vouloir. « Tu me donnes ta parole, lui dis-je, que tu ne commettras aucune imprudence. »« Aucune, fit-il avec un sourire. À ton tour, je vais te donner un conseil. Lequel ? Pour que la transition entre le connu et l'inconnu te soit moins brusque, il faut que pendant le délai que je sollicite de toi, tu t'étudies à combattre en toi le vieux scepticisme qui, en dépit de ton ouverture d'esprit, est toujours imminent à reparaître. Médite cette belle parole d'Arago. Hors des mathématiques pures, le mot impossible n'est pas. C'est déjà mon opinion, répondis-je en lui serrant les mains. Du diable si je ne crois point un peu déjà au surnaturel. Je faisais en moi-même allusion aux étrangetés de la nuit. Il haussa les épaules. « Mais n'emploie donc pas de mots sans signification. Le surnaturel n'est pas. L'électricité paraît surnaturelle à un sauvage, et le phonographe à un académicien. Il n'y a que des changements de plan et de perspective. Non, mais ne m'induis pas en discussion, c'est de la force perdue. » Jean était désolé de me voir m'éloigner. Ne s'imaginait-il pas que j'abandonnais son maître à la folie, à la possession ? Il croyait très naïvement à une action démoniaque. Je le rassurai de mon mieux et partis. Je revins à Paris et, en vérité, je respirai largement. L'atmosphère de la pierre sèche avait en quelque sorte contracté mes poumons, et ce fut avec délice que je vécus ces 48 heures de la vie normale. Mais il me vint cette pensée que, si j'étais contraint à passer quelque temps là-bas, ne fût-ce que pour tenter la guérison morale de mon ami, il me fallait faire provision d'air parisien. Alors j'achetais les pièces en vogue, les romans les plus à la mode. Je m'abonnais aux journaux vivants, je priais une amie de m'écrire souvent et de me tenir au courant des 1000 incidents de la vie quotidienne. Bref, ne sachant pas au juste ce que l'avenir me réservait dans cette maison bizarre, je pris mes précautions pour combattre des hantises redoutées. Avec cela, les plus récents ouvrages scientifiques me ramèneraient à mes études favorites. J'étais paré ainsi qu'un passager qui prévoit une traversée difficile. Muni de mon viatique intellectuel, dans lequel j'avais fait une large place aux distractions de l'imagination, je repris le chemin de Salbris. J'arrivai au castel avant le moment fixé. C'était avec intention. Je voulais avoir le temps de ranger mes livres pour les avoir sous la main en cas de besoin. Jean m'attendait à la porte dans un état d'exaltation qui d'abord m'effraya. Oh, rien de bien grave d'ailleurs. Depuis 24 heures, Paul n'avait pas ouvert sa porte. Jean avait écouté, espionné. Ce qui l'effrayait le plus, c'est qu'il n'avait rien découvert. Mais Paul était vivant, c'était le seul point acquis et celui qui me touchait le plus. J'étais là, maintenant, la tête parfaitement saine et décidé à tout pour triompher d'une monomanie quelconque. Nous transportâmes mes caisses dans la bibliothèque et les livres de sciences occultes dont les rayons étaient garnis durent frissonner de colère, forcés qu'ils furent de se serrer pour faire place à des œuvres de raison saine et d'imagination bien pondérée. Cela fait, et comme je consultais ma montre qui marquait précisément 6 heures, la sonnette de Paul retentit. Jean monta. Je redoutais un peu que Paul réclamât une augmentation de délai, mais je n'eus pas à dépenser une nouvelle dose de patience. Paul m'attendait. Je montai rapidement à sa chambre. Il me reçut fort bien. J'eus même la satisfaction de constater qu'il ne paraissait pas plus affaibli qu'avant mon départ. « Eh bien, dis-je gaiement, tu vois que je suis exact. De ton côté, tu parais disposé à tenir ta promesse. Me voici donc, l'oreille et l'esprit ouverts, prêt à écouter tes contes de fées. « Oh, ne prends pas ce ton léger, me répliqua-t-il, car jamais, jamais, entends-moi bien, il n'y eut dans notre vie minute plus grave. » Je lui tendis la main, il y mit la sienne. « À vous, reprit-il, que tu me crois fou. Oh, moi, je te jure, oh, ne jure pas, car aussi bien il fut telle heure où je crus moi aussi, que ma raison m'abandonnait. Et tu me comprendras plus tard, quand tu apprécieras ce qu'il faut d'énergie pour rester maître de son cerveau, alors que, sous un souffle venu on ne sait d'où, s'ouvre lentement la porte profonde de l'inconnu. » Sa voix avait légèrement tremblé. J'étais plus ému que je ne le voulais paraître. « Oh, je t'affirme, repris-je vivement, que tu ne te heurtes en moi à aucun préjugé, à aucun parti pris, non plus qu'à des ironies de méchant goût. Parle-moi donc en toute confiance. Je t'ai toujours aimé, nous avons creusé ensemble les problèmes les plus ardus. Quel que soit le terrain où tu m'entraîneras, tu m'y retrouveras ferme et de bonne foi. J'écoute. » Il me remercia d'un sourire reconnaissant. J'avais dit vrai, je trouve ridicule toute négation a priori. Il pencha alors son front sur ses deux mains et pendant une minute, je pus me demander s'il songeait encore que je fusse là. Mais il releva la tête, me regarda bien en face, puis, allongeant la main vers un flacon de cristal à demi plein d'une chartreuse dorée, il le plaça en pleine lumière et me dit « Regarde ceci attentivement, de tous tes yeux, comme on dit, avec le ferme désir de te souvenir de la forme et de la couleur. Ne parle pas, ne pense pas, regarde. » Pris d'un intérêt dont je n'étais pas maître de me défendre, dominé aussi, je puis bien l'avouer, par l'autorité de son geste et de sa voix, je concentrais toute mon attention visuelle sur le flacon qu'il me montrait. Il était de cristal très pur, avec autour du col quelques tailles délicates en forme d'olives allongées. La panse même du flacon était d'une jolie rondeur, et vers le fond, d'autres olivettes s'étiraient vers la base. La liqueur, toute d'or, vibrait autour d'un point ensoleillé, presque éblouissant. Tout cela, je le vis en une seconde, en une acuité d'attention détailleuse que je ne m'étais jamais connue. « Ferme les yeux maintenant, » me dit-il du même ton brusque auquel j'obtempérais immédiatement. « Encore une fois, regarde en toi le flacon. Ne le vois-tu pas ?»« Je le vois, » m'écriai-je. Et pendant un temps que je ne puis apprécier, je vis aussi nettement que si j'avais eu les yeux ouverts le flacon, l'estrie du cristal, les étincellements de la liqueur. J'eus la volonté de retenir cette image, cette photographie intérieure. Mais tout s'effaça. « Bah, » fis-je en ouvrant les yeux, « c'est le phénomène bien connu de la mémoire visuelle. » Il eut un geste d'impatience et s'écria « Mémoire visuelle !» Ah, voilà bien votre méthode scientifique, des mots répondant à des mots. Mais qu'est-ce que la mémoire? Vous l'ignorez, mais vous avez dénommé, étiqueté une faculté. Vous l'avez catégorisée, cataloguée dans vos dictionnaires, et vous voilà satisfait. Bien plus, il faut que tous le soient avec vous, sous peine d'anathème. Voyons, parle, réponds-moi en toute sincérité. Qu'est-ce que la mémoire? Comment s'exerce-t-elle? Quel est son organe? Ah oui, l'image se forme sur la rétine, est transmise par un réseau de nerfs à ton cerveau. Mais par quel mécanisme? Alors je le voyais s'exalter, je voulus le calmer. Remarque, je ne formule aucune théorie, je ne suis pas un adversaire, mais un ami. Peut-être fort ignorant, mais en tout cas de bon vouloir. Ah, tu m'avais promis de ne pas user d'ironie. Eh bien oui, je t'instruirai malgré toi. Et voici ma formule. La mémoire visuelle, c'est la projection hors de nous d'une forme emmagasinée en nous. Oh oui, la définition n'est pas pour me déplaire. J'appelle ton attention sur la projection que j'appellerais physique, celle de la forme de la coque extérieure des choses. Quand tu songes à un livre, tu en vois plus ou moins nettement la forme. C'est vrai. Mais si tu te souviens d'un cheval, tu as devant les yeux la silhouette plus ou moins correcte de l'animal. C'est encore exact. Eh bien, suppose que tu exerces ta volonté à perfectionner, à accentuer cette silhouette, comme le fait un peintre, par exemple. Tu projetteras ton souvenir hors de toi, et tu t'en serviras comme d'un modèle adéquat, toute proposition gardée, au modèle vivant qui se placerait devant tes yeux. Oui, je ne nie pas. Alors, admets que tu concentres de plus en plus ton énergie volitive dans le sens de ce perfectionnement, de cette accentuation. Augmente ta force de contemplation, augmente ta faculté de restitution mentale, puis extérieure. tu arriveras peu à peu à créer ce que j'appelle encore que l'illusion de l'existence réelle de la chose souvenue. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas illusion, mais réalité. Cette forme que tu as observée par ton attention, que tu possèdes en toi, tu la projettes réellement au dehors. Entends-tu, elle existe, elle est. Voici le mot vrai. Elle est la restitution des particules d'infinitésimale matière que tu t'es appropriée en regardant l'objet, en l'aspirant par ton attention, en les emmagasinant en toi. Cette reconstitution est non une illusion, mais une entité existante, elle est. Je l'interrompis. À mon tour, laisse-moi te dire que ce ne sont là que des hypothèses, qui, pour ingénieuses qu'elles soient, devraient être appuyées sur des preuves. Il ne me laissa pas achever. Abandonne donc tes procédés de sophiste universitaire. Pourquoi la forme que tu vois hors de toi existe-t-elle moins, qu'elle soit produite par le fait banal de la présence ou par ce que tu appelles l'imagination ? Parce que je puis toucher l'une et non l'autre et ainsi constater l'existence de la réalité. J'avais prononcé ces derniers mots vivement, un peu agacé à la fin. Et si je te prouve que tu peux toucher ton illusion ? Cria-t-il. As-tu d'ailleurs jamais possédé en toi le souvenir d'une forme imprimée assez profondément dans ton âme pour qu'elle y soit réelle, vivante, et pour que tu puisses la projeter hors de toi, comme elle est en toi, avec tous les attributs de la réalité et de la vie ? Ah, il faut aimer, avoir aimé, il faut avoir aspiré, résorbé, inhalé tous les effluves de l'être adoré pour qu'il soit resté vivant en nous, et qu'alors, au début de la solitude, fermant les yeux, vous le puissiez revoir en sa radieuse et parfaite réalité. Mais est-ce tout ? Non ! Parvenez à vous abîmer dans cet unique désir, dans cet immense vouloir de communiquer à cette forme tout ce qu'il y a en vous d'énergie et de puissance vitale. Et alors vous le reconstituerez, cet être de votre âme, sang de votre sang, chair de votre chair, substance de votre substance, individualité vivante, ressuscitée, recréée, comme de l'Adam paradisiaque, Aïcha, Ève, fut évoquée sous la lumière sublime des sphères éternelles. Ami, m'écriai-je, prends garde, cette exaltation te tue. Non pas, c'est ma vie. Ah, tu as pu croire que ma Virginie était morte et que moi, égoïste ou insensé, j'avais le honteux courage de lui survivre. Non, non, elle n'est pas morte. Je l'ai, elle vit en moi, ici, dans mon cœur, dans ma poitrine, dans mon cerveau. Elle vit. Je la vois adorable et souriante. Et comme un oiseau frileux qui dort dans mon être, je puis, quand je le veux, lui ouvrir la porte de sa cage. Viens, viens, tu la verras toi aussi, car elle va sortir de mon cœur. Il m'avait saisi par la main, m'entraînant. Je ne lui résistais pas, espérant qu'en ces sortes de crises, la contradiction est inutile et périlleuse à la fois. Nous étions arrivés à la porte du cabinet, jusque-là toujours clos. Posant les doigts sur la clé, « Écoute !» me dit-il à voix basse et avec une extrême volubilité. « Pour toi, mais pour toi seul, je vais commettre un sacrilège. Je violerai le sublime secret, mais elle m'a permis. Surtout pas un mot. Retiens ton souffle et regarde. » Nous étions entrés en pleine obscurité. Au dehors, maintenant, la nuit était profonde. Pas un rayon ne filtrait à travers les épais rideaux. De longue date, sans doute, ses yeux étaient habitués à ces ténèbres, car sans hésitation, il me conduisit au fond de la pièce et me poussa dans un fauteuil. S'étonnera-t-on que je fusse saisi d'une angoisse profonde? Ainsi les latins appelaient horreur l'émotion qui étreignait la poitrine du néophyte au seuil du bois sacré. Je n'osais pas faire un mouvement. Le buste en avant, la tête chaude, j'attendais dans une agonie d'anxiété. Je ne voyais pas Paul, mais peu à peu je percevais le bruit grandissant de sa respiration, ou plutôt de longs soupirs qui brusquement s'arrêtaient pour quelques secondes, après s'achevaient en une expiration profonde. Je ne mesurais pas le temps, mais ces pauses me semblaient interminables. Alors, d'un des points de la pièce, je vis bientôt que Paul se trouvait là, sur un canapé. S'épanouit une lueur blanche que je compare à la fumée très ténue d'un cigare. Cette buée, condensée en un filet, s'agitait indécise, tendant à monter. Puis elle s'élargit, s'étendit, montant encore en un jet plus fort. Très lentement, elle tournoyait sur elle-même, se multipliant maintenant d'autres poussées de buée qui venaient se fondre en elle, formant un nuage dont les particules paraissaient animées d'un mouvement d'une intensité vertigineuse. De ce tourbillon de molécules se dégageait une lueur faible, mais cependant suffisante pour que je visse mon ami dans la position que j'ai dite, la tête appuyée sur un coussin, les yeux fermés comme dormant, si pâle d'une blancheur lunaire. La buée se condensait, la giration qui l'agitait se faisait plus lente, elle se figeait, pour ainsi dire, et peu à peu une forme se précisait, des contours se délinéaient. Cela devenait une image, d'abord très vague, d'un pastel très effacé. À mesure que cette précision s'accentuait, de la poitrine de Paul des soupirs plus forts s'échappaient, presque des gémissements, et la forme, toujours plus nette, c'était clairement celle d'une femme, ondulait exactement à l'unisson des inspirations et des expirations. À chacun de ces mouvements, elle prenait plus de solidité, si je puis dire, comme si ce souffle eût été une nourriture vitale. Entre lui et elle courait un filet de vapeur qui paraissait avoir sa racine dans la poitrine du dormeur. Et ce fut alors que je compris ce qu'il avait voulu expliquer. Elle naissait de son cœur. Oui, c'était bien de son cœur que s'exhalait, que s'extériorisait cette forme qui prenait une vitalité, qui, d'abord spectrale, peu à peu revêtait toutes les apparences, dois-je dire, les apparences de la vie. Étais-je fou, moi-même? Quand à présent je reconnaissais Virginie, la pure et chère enfant, non pas un fantôme, plus sinistre que le cadavre lui-même, mais un être qui avait un regard, qui respirait, qui avait tous les attributs de l'existence. Non, je ne puis me mentir à moi-même. C'était bien elle, ressuscitée, revenue de ce monde d'où nul ne croyait jamais ne pouvoir revenir, Virginie, l'adorée, revivifiée par l'amour. Oui, miracle de l'amour en sa toute puissance, elle revivait de celui qu'il avait conservé en lui et qui, par un sublime don de lui-même, restituait, animait, vitalisait la tant aimée qu'il portait toujours vivante au-dedans de lui-même. Il avait maintenant les yeux tout grands ouverts et les tenait ardemment fixés sur ses yeux à elle, ses yeux dont je reconnaissais la teinte bleutée avec des paillettes d'argent brunies. Je m'étais dressé à demi, désireux de m'approcher, n'osant pas. Il me fit un signe et je compris qu'il m'appelait. Il me désignait un flacon qui se trouvait sur une console. Je le pris et l'ouvris. L'éthylique parfum de l'éther se répandit et je constatai à ma grande surprise que sous les effluves de l'odorante substance, l'apparente vitalité du fantôme plus encore s'affirmait. La jeune femme s'était agenouillée auprès de Paul et ses mains se mêlaient aux siennes. Se parlait-il? Je n'entendais pas de mots, et pourtant je devinais qu'il se disait silencieusement des choses exquises. Mais comment se fit-il que je me trouvais moi aussi agenouillé auprès d'eux et que Paul, souriant, mit ma main dans celle de Virginie? Elle me regardait de cet air d'entente qui est le renouement des anciennes amitiés, et je sentais dans ma main ses petits doigts si souples qui répondaient à ma discrète étreinte. Et aussi, Paul m'y avait autorisé sans doute, je posais ma main sur son cœur, et ce cœur battait. Pendant un mois, je vécus dans ce monde de rêves, sans essayer même de me soustraire à l'enveloppement qui chaque jour plus étroitement me circonvenait. Le mystère est un engourdisseur, le sphinx à la fois hypnotise et enivre. Un jour enfin, je m'éveillai de cette torpeur. Allons donc, est-ce que j'allais, comme tant d'autres, comme le Zanoni de Boulevard, me laisser vaincre par le gardien du seuil? Est-ce que, paralysé et brisé, j'oublierai lâchement les obligations de la vie réelle pour me griser perpétuellement de l'absinthe de l'au-delà? Est-ce que j'avais le droit de me trahir moi-même, de me livrer pieds et poings liés à l'imbécile ébriété de l'occulte? Ces jouissances malsaines de la déséquilibration valaient-elles les normales satisfactions que donne l'étude positive et forte? J'avais assisté à des phénomènes stupéfiants, inattendu surtout. Mais pourquoi, après tout, me troublerait-il plus que les expériences étonnantes, 100 fois exécutées dans le laboratoire? Il y avait là, je le concédais, une ouverture sur un monde nouveau. Mais pourquoi s'hypnotiser devant l'entrebâillement d'une porte? N'était-il pas indiqué, au contraire, de fourbir avec plus de passion tous ces outils scientifiques, afin de ne pénétrer que mieux armé dans l'inconnu et saisir le secret à la gorge? Le surnaturel n'existe pas, il n'y a que des changements de plan. L'homme qui le premier fit du feu ne resta pas pétrifié devant ce foyer pour lui incompréhensible. Il en a pris usage et s'en rendit maître. Moi aussi je me rendrai maître de l'occulte, mais sans cette impatience qui trouble la raison et désorganise l'effort. Je commencerai par bien apprendre ce qui est de norme, après quoi je pousserai jusqu'à ce qui semble encore la normale. Quand ces pensées, par les réactions de ma conscience, s'imposèrent à moi, j'éprouvais l'ineffable bonheur du nageur en péril qui sent la terre solide sous ses pieds. Moi aussi je ressuscitais, je redevenais moi-même, je me libérais d'une hantise énervante. Mais en même temps, je compris que ma tâche ne devait pas être purement égoïste. En s'absorbant dans la contemplation de l'inconnu, mon ami marchait évidemment à la folie. En admettant même que ses forces résistassent à une hyper-excitation quotidienne, en admettant que les ressorts de sa volonté trop tendue ne se brisassent pas dans une catastrophe mortelle, il était certain que l'absorption par l'idée fixe aurait pour conséquence la monomanie sentimentale jusqu'à l'accident décisif de la désagrégation cérébrale. Chose assez curieuse, je dus peut-être à cette excursion sur la limite de l'aliénation une plus inattaquable fermeté de raison et aussi une plus irréductible ténacité de volonté. Je m'imposais une double mission. je n'eus point grand-peine à obtenir la première partie. 8 jours s'étaient à peine écoulés depuis ma résolution prise, que j'assistais avec le plus parfait sang-froid au phénomène renouvelé de l'extériorisation. J'avais tué en moi l'excessive curiosité, même le désir de soulever le voile, qui recouvrait encore la genèse du mystère. Je savais qu'un jour viendrait où mes études logiquement suivies me conduiraient à la solution du problème. Le but second était plus malaisé à atteindre. On l'a deviné, je voulais guérir mon ami. Je voulais l'arracher à l'au-delà, à ses illusions. Oui, illusions, puisque c'était lui et lui seul qui donnait la vie à une apparence, à une coque vide. Je voulais le ramener en la réalité. Je fus par bonheur assez maître de moi pour ne pas dévier de la ligne que je me traçais dès le premier jour et dont la première étape se pourrait indiquer ainsi la division de son attention. Nous ne nous quittions plus. Le vieux Jean me regardait d'un air navré, s'avisant que j'étais aussi fou que son maître. Je n'avais pas cru utile de le détromper, redoutant de sa part une intervention qui aurait tout compromis. Comme je n'élevais aucune prétention à nier la réalité de l'apparition, comme j'acceptais sans l'ombre d'une contradiction les théories mystiques de Paul, il vint un moment où, entre nous, ce sujet de conversation fut épuisé. Ce fut alors que je lui parlais de mes propres études. J'avais organisé dans les sous-sols du petit château un laboratoire de chimie et j'avais pris pour thème de recherche la genèse des éléments d'après les travaux de William Crookes. Ces travaux me passionnaient à un tel point que je me sentis bientôt doué de l'énergie nécessaire pour imposer mon influence à mon ami. Je sus, en les quelques heures dont il pouvait disposer chaque jour, éveiller d'abord, puis développer, puis surexciter ses curiosités scientifiques pour qu'il devint un zélé collaborateur. Oh, je me demandais parfois si je ne commettais pas une action mauvaise, presque lâche, puisque mon adversaire, c'était elle, c'était l'aimée que je voulais chasser, c'était l'intruse que je voulais renvoyer à la tombe, de silence et d'immobilité. Et un jour, dans une merveilleuse expérience d'analyse spectrale des métaux premiers, j'arrivai à ce résultat inouï que Paul oublie à l'heure ordinaire de son macabre rendez-vous. Il laissa passer ainsi plus de 50 minutes. Quand il s'en aperçut, il eut un véritable accès de désespoir, presque de rage. Je le calmais de mon mieux et l'accompagnais. Mais il avait dépensé une telle somme d'attention à suivre les changements du prisme qu'il eut une peine infinie à évoquer l'image attendue. Et tel fut l'effort qu'au moment où réellement je commençais à concevoir de graves inquiétudes sur l'issue de cette séance, les ressorts de son énergie se détendirent et il s'endormit profondément. J'éprouvais la plus grande difficulté, on le comprend du reste, à renouveler ma traîtrise. J'avais dû prendre l'engagement d'honneur de ne plus jamais permettre qu'il oublie à l'heure de son funèbre rendez-vous. Mais à mesure que je l'étudiais mieux, mon machiavélisme trouvait de nouveaux moyens d'action. J'arrivais peu à peu à l'intéresser non seulement à des sciences arides, mais encore au mouvement contemporain des idées. Bien qu'il s'en défendît d'abord, le démon de l'examen, de la discussion, s'emparait de lui. Je provoquais moi-même ces contradictions, et de cet effort cérébral résultait une diminution d'énergie qui nuisait à la netteté de l'apparition. J'assistais rarement à cette évocation, toujours semblable à elle-même, avec seulement une moindre précision. Pendant quelques jours, je le vis plus triste, plus absorbé que de coutume. Je n'osais pas l'interroger, sentant bien toute ma part de responsabilité dans ses mélancolies. Il se refusa à toute causerie, se renfermant dans sa chambre et verrouillant sa porte. Je savais qu'il se cloîtrait de bonne heure dans le cabinet secret. Les fioles d'éther se vidaient rapidement. Il ne me demandait plus de l'accompagner. Mais je veillais à son insu. Je m'étais même procuré de doubles clés de sa chambre et du cabinet. Tant qu'il se livrait à ces douloureuses expériences, je restais de l'autre côté de la porte, l'oreille collée au panneau, dans un état d'indicible angoisse. Un soir, il était enfermé depuis plus de 2 heures, j'entendis un cri navré comme un râle et en même temps le bruit d'une chute. En une seconde, je fus auprès de lui. Il était à terre, au milieu du cabinet, en proie à des convulsions épileptiformes. Je le relevai, l'emportai dans mes bras, hors de cette atmosphère saturée d'éther. Il était livide avec un masque de mort. Je parvins à le ramener. Mais alors il se dressa à demi, le visage contracté, criant « Elle m'aime plus, elle m'abandonne. Virginie, Virginie, pourquoi donc n'es-tu pas venue ?» Puis ce fut d'une crise qui ressemblait à un accès de folie furieuse. Le lendemain, Paul était pris d'une fièvre intense, compliquée d'un délire aigu. J'appelai par télégraphe un ami, grand praticien de Paris, qui accourut et je lui dis tout. Il eut l'audace de prendre une résolution violente. À tout risque, il fallait enlever Paul au milieu qui entretenait sa douloureuse passion. Il était certain que s'il restait à pierre sèche, la hantise le ressaisirait au moindre éclair raisonnable et la tension de sa volonté, s'exerçant sur des organes là, amènerait infailliblement la mort. « Transportons-le à Paris chez moi, » me dit ce grand médecin. « Il faut abolir en lui le souvenir du passé. » J'obéis. Ce fut un triste pèlerinage, mais la commotion cérébrale avait été trop forte pour que le malade se rendît compte de ce qui se passait. Nous pûmes l'enlever de pierre sèche et l'installer dans l'appartement du docteur, sans même qu'il eût la sensation d'un déplacement. Pendant plus de 3 mois, nous désespérâmes de le sauver. Nous étions admirablement secondés dans notre tâche par une sœur du docteur, jeune veuve intelligente et jolie, que des malheurs prématurés avaient faite compatissante aux souffrances d'autrui. Elle s'était prise de sympathie pour ce grand garçon, qui maintenant semblait n'avoir pas plus de volonté qu'un enfant, et qui, dans les premiers temps de sa convalescence, éprouvait d'infinies jouissances à se sentir vivre. Naturellement, j'avais écarté le vieux Jean et moi-même, je me tenais le plus possible hors de sa vue, voulant que son intelligence s'éveillât dans un milieu tout nouveau. Oserais-je dire que j'avais eu l'audace de tout révéler à la sœur de mon camarade, lui expliquant que Paul avait failli mourir de regretter une morte et que peut-être il vivrait d'être aimé d'une vivante. On ne s'adresse jamais en vain à la pitié des femmes. D'ailleurs, celle-ci ne mettait-elle pas déjà de tous les dévouements qu'elle lui avait consacrés, des longues heures passées à son chevet, des boissons approchées de ses lèvres, des douces gronderies dont ne se peuvent dispenser les plus patientes gardes-malades. Quant à moi, si c'était un sacrilège de repousser Virginie dans sa tombe, je le commettais en toute sûreté de conscience. Ce fut sur ce gracieux visage de femme, saine et jeune, avec dans les yeux un rayon de malice, que tout d'abord se posèrent les yeux de Paul. Le charme dont elle l'enveloppa en un héroïsme de coquetterie miséricordieuse empêcha, retarda, le réveil du souvenir. Je reparus moi-même à son chevet, et il sembla comme surpris de me voir. Notre intimité se renoua. Aucune allusion n'était faite aux événements de Pierre Sèche. Je devinais bien parfois qu'il voulait m'interroger, mais aussi je comprenais que ses souvenirs étaient assez vagues pour qu'il doutât de leur réalité. Aidé de la femme, je le guidais pas à pas en sa rentrée dans la vie. Sans contrainte, je dirigeais ses idées dans le sens de la pratique et de la normalité. Je l'intéressais aux actualités, assez pour qu'il n'eût pas besoin de recourir à l'aliment intellectuel du souvenir. Puis, à tout dire, mon plus puissant auxiliaire, ce fut l'amour, fait de reconnaissance et de soumission, qu'il vouait à celle qu'il avait sauvée. Ce ne fut qu'après 6 mois de convalescence, au moment où ses forces étaient complètement revenues, qu'il se hasarda à me questionner sur le passé. Il était dit que je commettrais tous les crimes moraux. Je mentis hardiment, lui expliquant que, depuis la mort de sa première femme, il s'était trouvé dans un état de santé intellectuelle qui avait parfois les apparences de l'hallucination. Il n'osait pas me pousser à fond, mais j'eus l'audace de répondre à ses plus secrètes pensées en lui racontant que, dans des accès de délire, il avait cru revoir celle qu'il avait perdue. Par bonheur, son cerveau détendu n'était plus apte à renouer la chaîne des raisonnements abstrus nécessaires aux conceptions mystiques. Il me crut par lassitude et parce qu'il voulait me croire et se libérer du passé. Et ce fut ainsi que la pauvre Virginie, j'ai l'hypocrisie de la plaindre, mourut une seconde fois, jamais plus évoquée, image à jamais effacée, emportée par l'éternel reflux de la mer d'oubli, selon la loi inéluctable et bienfaisante qui régit les êtres et les choses.